Paul Arène, un paysan perverti. Nous le trouvions là quand apparut, ruisselant de pluie, oh, je le revois encore après 15 ans, comme si la chose était d'hier, avec son bâton, lanière, son feutre, ses souliers ferrés et sa blouse. Un commis voyageur lui avait appris là-bas, aux confins de la Bretagne, que ces trois putiottes qu'il croyait perdues faisaient fortune dans la capitale, et son cœur de père s'était subitement attendri. Il arrivait ainsi, ahuri et inattendu, par l'occasion d'un train de plaisir. D'abord, le garçon ne voulait pas le laisser entrer, prenant cet inopportun visiteur pour quelque maraîcher ivre dont le costume et la tenue menaçaient de faire tache sur la flamboyante respectabilité de l'établissement. Mais il repoussa le garçon et, les bras ouverts, pleurant de vraies larmes, « Gladys, Claudine, la Roussotte !» La Roussotte, Claudine et Gladys, elles avaient conservé leur nom de village, se retournèrent si vivement que le satin des corsages craqua. Et d'une voix où, à travers l'accent parisien et l'enrouement professionnel, s'éveilla soudain comme un souvenir du parler rustique, toutes trois ensemble, elles s'écrièrent « Vais donc, Cochevis, mon père, notre père !» et gagnaient à leur tour par l'émotion « Oh, c'est beau la famille !» Franchement, comme de braves filles, sans faux respect humain, sans prendre garde à l'ironique curiosité qui, au milieu d'un profond silence, s'allumait dans l'œil des consommateurs et des servantes attablées, elles avaient laissé leur absinthe, leur cigarette, et tout en demandant « Comment va la vaque ? Comment va la mère ?» elles barbouillaient de poudre de riz en l'embrassant à tour de rôle, le museau râle du vieil homme. Maintenant, Gladys, vous avez deviné que c'est une façon paysanne de dire Claudie. Maintenant, Claudie, la Roussette et Cloane, poussaient les soucoupes, heurtaient des verres, remuaient les chaises pour faire au père retrouver une place d'honneur à leur table. Mais le père ne se pressait point. Campé sur ses larges semelles où la boue nouvelle des rues se superposait, sans la cacher, à l'argile du champ natal, tournant à droite, tournant à gauche, son émouvement de tête, son chapeau largement imbibé, dont le rebord jetait l'eau de pluie en rigole et dessinait sur le tapis à fond rouge des arabesques d'arrosoir, le père Cochevis regardait les tables de marbre, le plafond semé d'amour rose, les glaces, le comptoir doré de cristaux et de fleurs en gerbe, derrière lequel, entre une grappe de cuillères d'argent et une pyramide de sucre cassé, souriait impassible la caissière brune, reposée et grasse. Puis, satisfait de l'examen, il retira enfin son inamovible feutre, aussitôt secoué de manière à produire une définitive inondation, et proféra, d'un ton convaincu, les sages paroles que voici. « Pour être bio, c'est bio !» Oui, bio et riche. On dirait, nom d'un père, la pharmacerie de Coutances. Dans l'idée du naïf rural, cette pharmacie de Coutances, un jour entrevue, était restée, paraît-il, comme le nec plus ultra des dorures. La réflexion fit rire. Pourtant, ni Gladys, ni Clotilde, ni La Roussotte ne daignèrent prêter attention à l'effet produit. Un peu surprise d'abord, un peu gênée même de cette reconnaissance imprévue, elles avaient pris le parti, fières au fond, en tant que personnes établies et commercialement honorables, de pouvoir montrer un vrai pair à la troupe de petites mal coiffées qui servaient les bocs sous leur direction. Car les trois sœurs étaient en effet très réellement patronnes de cette café des peuples d'étudiants et de futurs artistes, où un retour d'amour paternel venait de conduire le vieux Corsevie. Mises à mal, chacune à ses 16 ans sonnés, par un gentilhomme de campagne, elles s'étaient, l'une après l'autre, réfugiées à Paris. Et la fortune souriant, un vent favorable poussant leur barque frétée sur Cythère, elles avaient fini par aborder dans cette anse capitale, au flot de limonade, qui est sur la rive gauche le rêve secret, la demi-réhabilitation vaguement désirée de toute fillette folle de son corps. Trois bons jeunes hommes à qui les trois sœurs gardaient depuis une fidélité flatteuse, quoique relative, avaient fourni les premiers fonds en matière de commandite. Cependant, l'heure du repas approchant, on installa le père Cochevis, lui, septième, à la table où d'ordinaire dînaient ses trois filles et les trois amis de la maison. Réjoui par l'odeur des plats et flatté de se voir en honnête compagnie, le vieux Cochevis se laissa faire. Il figurait à merveille, d'ailleurs, le vieux Cochevis, au milieu de ses filles et de ses demi-gendres, grave, la serviette au cou, buvant sec et travaillant ferme de ses mâchoires, et le spectacle avait quelque chose d'intime et de patriarcal. Leur repas terminé, Gladys, Clotilde et la Roussotte s'en allèrent au théâtre, après avoir momentanément confié les pouvoirs à la caissière. Et le père Cochevis, demeuré seul, eut tout loisir pour se familiariser avec les habitués. Familial et attendri, il croyait prolonger un songe agréable. On lui offrait des bocs qu'il acceptait, sentant à chaque fois, pour payer sa tournée, une bourse enroulée en replis tortueux, que du reste, il ne venait jamais à bout d'ouvrir. Puis, comme les trois patronnes s'attardaient, ses nouveaux amis, histoire de lui montrer la ville, le conduisirent dans quelques tavernes concurrentes. Si bien qu'à minuit, la vue un peu troublée et ne s'y reconnaissant pas au milieu de tant de jeunes personnes, également peintes et parées, ce brave père Cochevis les appelait tous la Roussette, Clotilde ou Gladys, et voulait tous les embrasser. J'en avons-ils, les filles, j'en avons-ils? C'est ben dommage, on a peur que la mère Cochevis soit point venue. On le coucha sur les 2 heures. Quoiqu'il essayât de protester, jurait de se sentir aucun sommeil. Le lendemain, quand il se réveilla, le vieux Cochevis était pour ainsi dire complètement acclimaté. Il ouvrit sa porte tout seul et se répandit dans les rues, retrouvant d'instinct tous les cafés où il avait promené la veille. Il lui semblait avoir toujours habité Paris et sa maisonnette, de là-bas, cachée sous les pommiers, lui faisait l'effet d'être singulièrement lointaine. Ses filles, ne le voyant pas, s'inquiétaient déjà de son absence. Mais il entra tout droit, sans accident ni avarie, à l'heure exacte du déjeuner. Et à partir de ce jour-là, le vieux Cochevis se considéra comme partie intégrante de l'établissement. Retourner en Bretagne, ou jamais, ce serait sa mort. Il a trop bon cœur et ne saurait pas se passer de ses filles. Dignement, certes, en tout bien et tout honneur. Oh, ce n'est pas devant lui qu'il faudrait pincer le menton de Gladys ou prendre la taille à Chlorine. S'il s'en apercevait, non d'un pain. À vrai dire, quelquefois, la chose arrive, seulement par bonheur, il ne s'en aperçoit pas. À part cela, il aime à rire, se représentant des antiques vertus. Il aime à rire, à trinquer avec les amis. Et quand une petite servante, sentant bon, l'embrasse par malice et l'appelle mon oncle, il ne se fâche pas trop fort, trouvant un certain agrément à comparer ses fraîches frimousses avec la peau de châtaigne sèche dont les ans ont gratifié la vieille mère Cochevis. On ne l'oublie pas, d'ailleurs, la pauvre vieille. Chaque fois, les petites lui expédient quelque argent. Et papa Cochevis, bon père et bon époux, adjoint généralement à l'envoi sur ses économies. Car, paraît-il, elle aime à fumer un paquet de tabac et une pipe neuve. Le père Cochevis vit heureux. Par exemple, à aucun prix, sous aucun prétexte, ses filles n'ont pu le décider à se séparer de son bâton, de son chapeau et de ses souliers ferrés, de sa blouse. « Je suis un paysan, dit-il, un paysan honnête. Si quelqu'un rougit de moi, je repars. » Alors on le prie de rester et il reste, la conscience en parfait repos, fier de s'affirmer paysan, honnête paysan, au milieu des corruptions parisiennes. Au surplus, la présence du vieux Cochevis n'a pas nui, tant s'en faut, à l'industrie de ses trois filles. On venait d'abord pour rire de lui, mais il a su se gausser les rieurs grâce à un certain fond de finesse rustaude. Et désormais, il est accepté et personne ne s'effarouche de voir dans un endroit médiocrement bucolique cette fantastique inouette d'homme des champs en disponibilité. Bien mieux, la rusticité du personnage a fini par rayonner sur ses entours. Cette longue blouse, ce patois, ont peu à peu fait germer dans l'âme des habitués des idées des glogues. Et à une époque où les cabarets pittoresques n'étaient pas encore à la mode, c'est Gladys, Clotilde et la Roussotte qui, les premières, eurent la triomphante idée de transformer leur café banal en vrai café et en vrai cabaret de campagne avec l'horloge à gaines. Le dressoir chargé d'assiettes pleines, la devanture en verre, et sur l'enseigne, à la poule qui pond, une poule en argent faisant ses œufs dans un nid de paille dorée. Et maintenant, tant il est vrai que la Providence arrange tout au gré des braves gens, le vieux Cochevis se trouve dans son vrai cadre. Sortant peu, car il méprise Paris, toujours affable, enfin, de manier les cartes ou de boire, il peut se croire rentier dans son village. Rien ne lui manque, pas même le respect dévolu aux gens supérieurs. Ne l'ai-je pas surpris un jour, à la poule qui pond, en conférence avec plus illustre de nos romanciers? Il s'était mis à part dans un coin. La société faisait silence. Rouge d'un noble orgueil, Glady, Corinne et Laoussotte le contemplaient. Et le romancier humblement demandait des renseignements précieux pour un roman rustique. Et le père Cocheville les lui donnait, ces renseignements, sérieux comme un notaire et fier comme un pape.